Vous faites du déjà vu, Madame Lancaster.
Have we met?
Yeah. On se connaît?
Ouais. On se connaît.
Mais c'est de la merde!
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Déjà Vu, l'émission cinéma qui parle des films et de leurs remakes. Mieux connus, meilleurs que l'original ou carrément inutiles, nous sommes là pour en parler et déterminer lequel est le meilleur.
Ouh.
Corps de déesse et camouflage thermo-optique, elle a toujours l'esprit alerte, le combo parfait pour une combattante d'élite, c'est Mélissa.
Bonjour.
D'un tempérament sanguin, même si son enveloppe corporelle ne subira plus jamais aucune transformation naturelle, il affectionne quand même quelques séances de levée de fonte à la salle. On adore le regarder dans les yeux qu'il a bionique, c'est Vincent.
Je suis dans la matrice, bonjour.
Il est un programme informatique à lui tout seul, développé par le ministère de la Défense. Il est capable de s'infiltrer dans presque toutes les données du monde et de manipuler les mémoires humaines à des fins politiques. Bonsoir Maxime.
Konnichiwa les otaku.
Gênance dès maintenant.
C'est kawaii ou quoi?
Kawaii.
Aujourd'hui, on parle d'un film plein de cyborgs futuristes, de traques haletantes et de questions philosophiques. Il s'agit de Ghost in the Shell, film d'animation japonais réalisé en 1995 par Mamoru Oshii et de son remake américain en prise de vue réelle réalisé en 2017 par Rupert Saunders. Est-ce que vous aviez vu ces films, Maxime?
Oui, j'avais vu l'original, hein, avec mes amis, on appelait ça Kokaku Kidoktai, c'est le titre original.
C'est-à-dire toi et toi seul.
Ou Gosuto in the Shell.
D'ailleurs, tu peux nous dire ce que ça veut dire littéralement, le nom japonais
Ah, ça veut dire Ghost in the Shell, je crois. Non, pas du tout, je
le
parle pas du tout japonais.
Le fantôme dans la coquille.
Oui, j'avais vu Ghost in the Shell en cassette avec mon cousin Yohan,
oui,
quand j'étais
yo-yo.
Petit.
Tu l'avais loué au vidéo club ou pas?
Non, c'était Yohan qui l'avait.
C'est bien parce qu'on va connaître tous les membres de ta famille.
Oui, il y en a beaucoup. Hein. je l'avais vu il y a longtemps, mais je m'en souvenais plus trop
de l'histoire
et de la philosophie derrière tout ça. Et j'avais aussi vu le remake, que j'avais oublié alors qu'il est sorti il y a moins longtemps.
Mm-hmm. Vincent?
Oui, alors je l'avais vu également, bien évidemment, j'ai envie de dire, étant finalement un enfant des années 80-90.
Nipophile, nipponophile?
Nipponophile, première fois que j'entends ce mot.
Bah oui, amoureux du Japon.
Non, mais tu sais, en fait, bah, c'est la découverte des mangas, quoi, dans les années 90, c'était une claque. C'est via le Club Dorothée, un petit peu les premiers émois par rapport à ces choses-là.
Tu n'avais pas vu Ghost in the Shell dans le Club Dorothée?
Non, bien sûr que non. Mais non, tout ça pour dire qu'en fait, pour remettre le contexte et tout, c'était les premiers mangas, voilà. Et donc là, effectivement, film d'animation de cette trempe-là qu'on voyait. Il y avait Akira, qui était une claque monumentale, ouais. Et Ghost in the Shell, qui était une claque tout autant. Et donc, je l'avais vu, ça m'avait complètement fasciné. Je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai en DVD, j'avais pas très bien compris. Là, je me suis concentré et puis j'ai revu des trucs et donc c'est un peu plus clair. Mais c'est vrai que l'histoire n'est pas forcément.
Il y a des ondes de mystère.
L'histoire est pas forcément très facile à suivre la première fois. Et j'avais vu le remake également parce que, étant tellement marqué par Ghost in the Shell, j'avais voulu le voir au cinéma et il m'avait pas laissé de grands souvenirs. J'avais à peu près tout oublié. Mais voilà, donc j'avais vu les deux.
Mélissa?
Non.
Mélissa, non.
Mais je ne parlerai pas.
Rassieds-toi, t'en vas pas.
Je n'avais rien vu. Je crois que j'avais peut-être vu l'affiche du remake passer par là. Mais non, je ne connaissais pas. J'ai pas une grosse culture de manga, de voilà.
Et l'affiche de l'original, tu l'avais déjà vu passer? Parce que cette image-là, elle est assez culte, ouais.
Malheureusement, non. Non. Voilà, c'était une découverte pour moi. Et je suis plutôt népophile, fan des nuages.
Oh wow. Battle de Philly.
Battle de Philly.
Et toi, Géraldine, tu l'avais vu?
Alors, j'avais vu le premier il y a peut-être un an. J'avais bien aimé, parce que j'aime bien l'univers, je trouve que les animations sont super, mais on en reparlera. Après, il y a des choses qui m'échappent un peu, puisque c'est un peu opaque, je trouve, au niveau du discours du film.
Tout à fait.
C'est l'impression que ça m'avait donné, puis en le revoyant, j'ai eu un petit peu le même sentiment. Par contre, le deuxième, je ne l'avais pas vu, j'avais peut-être déjà vu l'affiche, puisque c'est quand même avec Scarlett Johansson, donc c'est pas passé inaperçu non plus. Mais je l'ai découvert, là, pour le podcast.
«
逆に自分の名前も知らねえ野郎がゴーストの無い人形は悲しいもんだぜ。その気になれば体内に埋め込んだ化学プラントで代謝の制御、知覚の鋭敏化、運動能力や反射の飛躍的な向上、文句を言う筋合いじゃないわ。疑似体験ってどういうことです？奥さんも子供も癒やしない。全部偽物の記憶で夢のようなものなんです。
Œuvre culte des années 1990 que Vincent va nous faire découvrir.
Oui, alors je vais tenter de vous faire un résumé.
Tu vas tenter ou une intelligence artificielle va le faire ?
Maxime, ça, c'est mes secrets de fabrication. Peut-être que c'est un mix entre...
C'est dans la thématique, pardon.
Bah voilà.
Qu'est-ce qu'être humain au final ? Qu'est-ce qu'un cerveau ?
C'est un mix entre un vrai résumé que j'ai fait avec mes mains, manuellement, à l'ancienne, j'ai envie de dire,
sur du papier,
comme on faisait avant 2024, et un mix de peut-être un résumé qui a peut-être été généré par une IA générative de texte. Alors voilà, Ghost in the Shell, donc ça raconte un petit peu l'histoire d'un avenir dystopique où la frontière entre l'homme et la machine s'est estompée. On va suivre le Major Kusanagi, donc qui est l'héroïne, le personnage principal de cette histoire, qui est à la tête de la section 9, une section anti-terroriste. On va suivre son histoire. Kusanagi, c'est une cyborg. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien d'humain dans son corps, à part son cerveau. Et donc, c'est un cyborg de dernière génération. Je sais pas s'ils le disent, mais on
c'est
le
comprend. C'est un peu le Dyson du cyborg. Quoi.
C'est un peu le dernier modèle.
C'est l'origine historique de Dyson.
À la on suit également donc Batu, qui est son collègue, son bras droit, on va dire le lieutenant du Major Kusanagi. Et en fait, le récit commence avec la section 9 qui enquête donc sur un mystérieux hacker connu sous le nom de Puppet Master, le marionnettiste. Et donc ce hacker qui serait capable de pirater et de contrôler les esprits des humains en manipulant leur implant cybernétique. Quand on dit manipuler les esprits, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à cette époque-là, dans ce monde-là, ce qu'on appelle ton ghost, donc ton esprit, en gros, peut être, uploadé d'une certaine manière dans un corps cybernétique. Et donc le Puppet Master, ce qu'il fait, c'est que lui, c'est un hacker de ghost. Ok, donc lui, il fait ça pour contrôler des corps qui sont pas à lui. Donc le Major et Batu se lancent dans une course contre la montre pour arrêter ce cyber-terroriste. Au cours de la quête, on découvre, en tout cas le Major découvre des éléments perturbants sur sa propre identité et sur la nature de la conscience artificielle. Et donc elle se pose tout un tas de questions philosophiques. Elle se demande où se situe sa propre humanité alors que finalement elle est complètement intégrée à la technologie et que son corps n'a plus rien de naturel finalement. On aura toutes ces questions qui vont se mêler à l'intrigue de l'histoire. Dans la dernière scène du film, qui est vraiment la scène ultra marquante, on a une confrontation entre le Major et le Puppet Master. Il y a aussi un tank qui protège le Puppet Master.
Sorte de tank araignée,
en fait,
là.
On apprend les réelles motivations du Puppet Master. Oui, ça, je l'ai pas dit, mais donc c'est le truc principal, c'est qu'en fait, le Puppet Master, c'est pas un hacker, c'est un programme informatique.
Il n'a pas de...
Une sorte d'IA.
Ouais, c'est ça.
Qui, en gros, qui a pris conscience d'elle-même. Et donc, qui considère qu'elle est un être vivant. Et qui, du coup, pose ses questions explicitement sur, finalement, qu'est-ce que la vie. Elle demande, d'ailleurs, même l'asile politique à la section 9, et elle veut être considérée comme une entité vivante. Et en fait, à la fin du film, on comprend que le Puppet Master, en fait, souhaite s'accoupler et se reproduire, en fait. Parce qu'il considère que c'est la dernière étape pour vraiment être considéré, pour vraiment faire partie de la vie, quoi, en quelque sorte. C'est pas de se dupliquer ou de se copier-coller, c'est vraiment de finalement créer une nouvelle version, quelque part, de lui-même, finalement en se reproduisant. Et donc, c'est ce qui arrive, puisque, en gros, on le voit à la fin, le Puppet Master a plus ou moins fusionné avec le ghost du Major Kusanagi. Et à la fin, donc ça laisse une porte ouverte un petit peu sur des suites possibles. Alors on verra, il y a eu beaucoup, beaucoup de contenu sur cette licence. Il y a eu des séries, il y a eu des films, il y a eu d'autres films d'animation, tant d'un qui se passe avant, tant d'un qui se passe après, il y a eu énormément de choses. À l'origine, c'est, je crois, juste un manga en deux volumes.
Masamune Shiro.
Ouais, et donc voilà, le film se termine sur le Major Kusanagi qui est cette fois-ci dans un corps d'enfant, puisqu'en fait son corps lors de la dernière scène, là, contre le tank, a été détruit. On voit que c'est toujours elle, mais c'est une elle plus plus quoi. Et elle a plus ou moins fusionné du coup avec ce programme-là, et c'est la fin du film.
Très bien, merci. Donc, un manga, comme tu as dit, en deux tomes, qui a été donc adapté en film d'animation. Manga de style seinen. Donc c'est
pour les adultes.
Ouais, c'est plus c'est une ligne éditoriale adulte homme, on va dire.
C'est ça.
C'est très
codé. C'est pour ça qu'elle est à poil tout le temps, quoi.
En fait, dans les mangas, il y a les shonen, donc c'est surtout pour les jeunes enfants garçons. T'as les shoujo, je crois, plutôt pour les jeunes filles.
Pour les filles.
Et ensuite, tu as seinen pour les adultes, mais c'est un peu non-genré, c'est vraiment après, avec des contenus...
Je pense qu'il y a des dizaines d'autres genres. Oui, ouais. Après, ces genres-là, aujourd'hui, ont plus vraiment de sens. Par exemple, moi, ma fille... elle bouffe essentiellement des shonen et elle en lit beaucoup. Donc bon, c'est un peu daté, effectivement, cette façon de catégoriser les choses. Mais,
oui. Oui, mais c'est au départ, c'était ça.
Au départ, c'était ça, ouais.
C'est leur cible au moment où ils les font.
Ouais.
Oui. Après, oui, t'es pas interdit quand t'arrives dans une librairie d'acheter...
Ça existe les shodas ou pas?
Allez.
Donc, un manga qui a contribué à la définition du mouvement artistique cyberpunk.
Ouais.
Alors, j'ai fait quelques recherches.
Oui.
Donc, le cyberpunk, c'est l'association des mots cybernétique et punk. Donc, c'est un genre de science-fiction qui est très apparenté à la dystopie et à ce qu'on appelle la hard science-fiction, qui met souvent en scène un futur proche avec une société, avec une technologie avancée.
Mais réaliste. Hard science-fiction, c'est ça. C'est quand il y a quelque chose de potentiellement réalisable.
Ouais, par rapport à ce que au progrès actuel.
C'est ça.
Enfin, contemporain.
Par exemple, voilà, Star Wars, c'est pas de la hard science, mais il y a des créatures qui n'existent pas, des sabres laser, machin. Là, c'est vraiment un futur potentiel possible, le fait que finalement on puisse télécharger son esprit. Voilà,
c'est d'actualité. Avec Monsieur Elon Musk qui développe le Neuralink.
Neuralink.
Ouais. C'est des vraies questions
qui sont actuelles et qui sont
quasiment tout le temps dans la science-fiction. C'est souvent des sujets qui permettent de questionner l'humanité sur qu'est-ce que c'est l'être humain dans un monde où la frontière avec le robot ou avec d'autres choses est floue, quoi.
Une sorte d'IA dépressive, quoi.
Bah là, oui, mais dans le film, il y a des moments où t'as des monologues. T'as l'impression de lire Descartes.
Je dirais plus, moi, son monologue, j'aurais cru que c'était un pote à moi qui a trop fumé de dos, tu vois.
Ah, mais c'est la frontière est aussi très fine.
C'est la conversation d'after.
Penses qu'on va mourir, mais si on meurt, est-ce qu'on existe encore?
Est-ce que c'est pas le souvenir des gens qui nous survivent qui fait qu'on survit? Ouais.
Mes ongles poussent, est-ce que je suis encore humain si c'est pas le même qu'hier soir, par exemple?
Est-ce que je suis la même personne si je me... c'est vraiment un truc de philo, quoi. Moi,
philo, mais qui est tordu, quoi.
C'est quoi, donc, les questionnements?
Où est la frontière de l'humain et de la technologie, quoi?
Ouais, et également, qu'est-ce qui fait ton identité? Est-ce que c'est ton enveloppe charnelle? Est-ce que c'est...
tes souvenirs.
C'est tes souvenirs, mais elle a pas du tout de souvenirs. Et en plus, elle a pas vraiment de corps, donc elle a un cerveau. Mais quel est l'intérêt de son cerveau si, en fait, elle n'a pas l'avantage d'avoir l'expérience d'une vie humaine? Alors, ils expliquent qu'elle a des réflexes plus humains, finalement.
Ouais, je la trouve pas très propres, émotive.
Mais elle, oui, par contre, ouais, elle reste... c'est un petit peu une coquille vide.
Ouais. Pas vraiment, quoi.
Shell, une coquille.
Oui, d'accord, mais elle a un cerveau.
Tiens, d'ailleurs, une anecdote par rapport à ça, le réalisateur qui a adapté. Donc,
c'est
pas le mangaka.
Mamoru Oshii, donc.
Ouais, il a fait des choix, et notamment le fait qu'on voit très peu, quasiment jamais, le Major cligner des yeux.
Ouais.
Parce qu'en fait, en vrai, c'est un cyborg, donc elle a pas besoin de cligner des yeux. Mmh. Et c'est vrai que c'est troublant. Tu la vois,
il y a vraiment
un côté pour le coup très inhumain parfois dans sa façon, dans son expression faciale, quoi.
Bah, moi j'avais du mal à croire à ses questionnements parce que j'avais l'impression de regarder un être sans émotion qui était là. Pourquoi je suis là? Mais t'as envie de dire, ça a l'air de plutôt bien se passer.
Et d'ailleurs, en fait, ils sont tous connectés, bien sûr. Et dans beaucoup de scènes, en tout cas, notamment beaucoup au début, enfin, il y a quand même pas mal de scènes d'action. Tu les vois qu'ils se parlent entre eux sans parler.
Ouais, par la pensée, tu veux dire.
Ouais, par la pensée, mais c'est comme s'ils étaient en vocal, si tu veux, mais dans leur tête. Et donc, du coup, ils se parlent et ils ont des émotions. Parfois, t'en as un qui va gueuler, machin et tout. Mais en fait, tu vois le visage du major. En fait, elle est en train de conduire ou elle est devant un PC, elle parle en même temps. Et en fait, il y a aucune expression. Donc, c'est très troublant. Donc, ça vous pose aussi, effectivement, ces questions-là de qu'est-ce qu'un être humain? Est-ce que c'est juste ce que tu penses et ton cerveau et tes émotions et machin? Mais voilà, est-ce que le corps a pas un rôle à jouer là-dedans? Et puis, effectivement, le corps qu'elle habite, et c'est un corps de dernière génération, machin, donc elle a des réflexes éclairs, elle ressent pas la douleur,
c'est invisible.
Une spécialiste en combat rapproché, machin, lin. Elle peut devenir invisible parce qu'elle a l'option invisibilité, en gros. Mais effectivement, le fait de pas pouvoir connaître la douleur, du coup, t'as pas du tout la notion du sens du toucher, quoi.
Ouais.
En fait, quand t'as le vent qui caresse finalement son visage, comment elle le ressent, comment c'est traduit, tu vois, pour elle, quoi.
En fait, c'est un film assez court au final, je sais plus combien de temps il dure, un peu moins, je crois.
Ouais, une heure et demie avec générique.
Mais du coup, ça offre, je trouve, des longs passages très contemplatifs.
Ah oui.
Sur des visages qui sont pas très expressifs.
Ouais.
On enchaîne les plans assez lents. Tu peux ne pas t'attendre à ça. Quand on dit on va regarder un manga, un animé, on s'attend à avoir plein d'actions et en fait on se retrouve à avoir des réflexions philosophiques juste par des voix off en fait.
C'est un peu déprimant.
Et des plans, une scène de 5 minutes où t'as juste les plans de la ville, c'est magnifique quoi.
Ça c'est très beau.
Et puis la musique
elle est géniale.
Il y a une ambiance qui est incroyable quoi.
Ouais, alors, la musique est géniale, il y en a juste une qui m'agresse un peu moi personnellement.
Ouais. Avec les chants.
C'est trop bien.
Donc le compositeur c'est Kenji Kawai.
Oh, kawaii.
Moi, c'est un peu comme Akira, j'adore. Ouais. Peut-être plus que Ghost in the Shell, je pense que j'ai un peu plus compris Akira, mais c'est toujours les musiques qui me restent en tête. Et là, c'est le cas aussi pour celui-là.
C'est un film japonais, mais je suis pas certain que ça se passe au Japon. Alors, les noms des nations sont plus les mêmes. Hein, et je pense que les inspirations sont plutôt autour de Hong Kong.
Absolument.
Oui.
Et alors, on le verra aussi avec le remake où ils l'ont clairement tourné à Hong Kong. Et c'est vrai que la ville, elle est vraiment géniale. Il y a des immeubles géants. À côté, tu as des quartiers un peu taudis avec de la street food et tout.
Ça fourmille de partout. Tu as des enseignes lumineuses partout, constamment.
Ouais, c'est assez classe. L'endroit est très cool.
Le directeur artistique, c'est Hiromasa Ogura. Et il s'est inspiré donc de Hong Kong, notamment de la citadelle de Kowloon, que je connais pas.
C'est un petit carré où il y avait la plus grande densité, je crois, d'êtres humains au mètre carré à une époque.
Ok. D'où le fourmillement.
Exactement.
Aussi. Et il s'est aussi inspiré d'une ville imaginaire qui a été dessinée par un architecte qui s'appelle Takashi Watabe.
Très bien.
Tant qu'on est dans les noms, du coup, j'ai retrouvé effectivement la signification de Ghost in the Shell, du coup, en japonais, Kokaku Kidotai, si je prononce bien. Et ça veut dire policier anti-émeute en carapace offensive.
Ce serait trop bien, c'est un peu les Tortues Ninja.
C'est moins poétique que Ghost in the Shell.
Ouais. J'en profite pour donner une petite anecdote. Kusanagi, c'est le nom d'une épée légendaire au Japon. Et Masamune, donc qui est le prénom, mais en fait qui est un pseudo, en gros, de l'auteur du manga. Donc c'est un pseudo qu'il a pris. Et en fait, Masamune, c'est un célèbre forgeron du XVIIe siècle. Donc voilà, donc Masamune a créé Kusanagi, le personnage Kusanagi. Voilà.
C'est magnifique. Alors je sais pas vous, moi j'ai vu le film et après je me suis dit j'ai pas tout compris et j'ai regardé quasiment plus de contenu qui expliquait le film.
Ah oui.
Et ça m'a duré plus longtemps que le vrai film et j'ai pas plus compris.
Non, j'ai du mal à comprendre qui on veut à qui est avec qui entre les différentes sections, pourquoi elle se pose des questions maintenant. Moi, enfin, tu vois, je...
J'avoue que j'ai fait le résumé, mais il y a un truc que j'ai pas capté et j'ai pas creusé, parce qu'en fait, je pense que ça n'a pas grande importance, c'est le rôle de la section 6, pour moi, qui est pas clair. Donc, en fait, là, il y a la section 6 de ce que je comprends, en fait, qui est en gros la section plus ou moins responsable de tout ce qui est technologie
cybersécurité
au sein du gouvernement, ok? Et la section 9, c'est antiterroriste.
Ouais.
Okay. Et en fait, à un moment donné, t'as un peu une confrontation section 6 version section 9 autour de cette histoire de Puppet Master. En fait, de ce que j'ai compris,
c'est leur création.
Les Américains ont créé ce programme dont ils ont un peu perdu le contrôle.
Pour surveiller les...
Ouais, et les pour faire de l'espionnage industriel, effectivement. Donc, c'était un programme qui était censé, du coup, j'imagine, s'infiltrer dans les cyborgs slash ghosts, voilà.
Si c'est ça, être humain, hein,
pour choper de l'info. Et en fait, du coup, ce programme, donc le Puppet Master, du coup, en gros, s'est un peu fait la malle. Il s'est, en gros, téléchargé dans un corps de cyborg qui sort d'une usine, tu vois, pour demander l'asile politique auprès de la section 9. Et en fait, la section 6 veut absolument récupérer ce programme-là. Je sais pas trop pour quelle raison, mais voilà. Et en fait, Major, là, Kusanagi, eux, du coup, ils veulent choper le Puppet Master. D'ailleurs, pourquoi ?
Je sais pas.
On sait pas trop pourquoi, en fait.
Il est hors de contrôle, il faut le contrôler.
Parce que probablement qu'il représente une menace, mais parce qu'en fait, au début, il y a une histoire avec la traductrice, quoi. Il y a la traductrice qui se fait hacker par le Puppet Master. Il y a une sorte d'attentat.
L'impression que j'ai, et je pense que c'est volontaire, c'est qu'on a l'impression d'arriver au milieu d'un truc. On n'a pas trop d'intro.
Sans forcément le contexte.
Ouais. Mais après, moi, j'aime bien aussi les histoires où t'as pas tout. Parce qu'en fait, t'es témoin d'un truc, t'arrives au milieu d'une affaire, et puis tu comprends qu'à la tête de la section 9 et à la tête de la section 6, ils s'aiment pas trop, les deux chefs, là. On sent qu'ils se cachent des trucs, donc ça fait vraiment... conflit entre deux unités,
conflit interne.
Mais de mon point de vue, au moment, à chaque fois qu'il y a des révélations et tout, ça ne me faisait rien, parce que je comprenais pas ce qui se passait, en fait. Genre, ah mon Dieu, on va faire ça. Ok, je vois pas à qui ça va poser problème, je sais même pas si ça va régler un problème, parce que je ne sais pas quel est le problème. Donc, je regardais le truc un peu esthétiquement, mais j'étais vraiment pas dans une attente de solution ou autre, puisque je voyais pas ce que ça pouvait enclencher, en fait.
Probablement que le fait de lire le manga doit aider à la compréhension, j'espère en tout cas. Mais en fait, enfin, je crois que c'est le feeling que tout le monde a quand il regarde Ghost in the Shell, genre j'ai pas tout compris, mais en fait j'ai l'impression que c'est pas du tout là le principal.
Ça.
Tu ressors de ça en fait avec des images et une ambiance et un feeling et tout ça. Et t'as ce questionnement un peu philosophique, métaphysique sur qu'est-ce que la vie finalement, qu'est-ce qu'un être humain. La dernière scène d'action, elle est juste incroyable. L'animation, elle est folle. L'ambiance, et c'est vraiment ça que tu retiens en fait du truc. Quoi.
C'est une scène d'action calme. C'est génial.
Ah ouais, avec une musique ultra calme et tout, c'est assez
ouf. On parlait du moment où elle essaye de soulever. Ouais.
Bah toute cette scène là, en fait,
elle arrive, elle prend son temps et tout.
Ouais, c'est ça, en fait, elle essaie de soulever, de détruire le tank, en fait.
Ouais, à la fin, ouais, ça finit pas.
Et elle déchire absolument tout son corps, enfin, ses bras, on voit les ligaments s'exploser.
On voit son dos se contracter juste avant et tout, c'est vrai que c'est hyper...
Et ça, c'est très Akira aussi, enfin, ça m'a fait beaucoup penser à ça.
En fait, il y a la section 6 qui a récupéré le corps de la cyborg dans lequel le Puppet Master s'était installé, quoi, en gros. Et en fait, en gros, ce qu'elle veut faire Kusanagi, c'est plonger, comme a dit. C'est-à-dire en fait se câbler sur le corps pour pouvoir l'intégrer, quoi, finalement, et puis pénétrer le ghost qui est là-dedans. Et elle dit, s'il y a un ghost, je trouverai. Et en fait, la question qui se pose, c'est, attends, mais le Puppet Master, du coup, il a pris le contrôle d'un cyborg, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un ghost, enfin, c'est l'équivalent d'un esprit. Et en fait, c'est ça qu'ils arrivent pas à croire depuis le début. Enfin, attends, mais c'est pas possible, c'est un programme. Un programme, c'est pas un ghost, tu vois. Et en fait, finalement, si, parce que ce truc-là a émergé.
Parce qu'il s'est assimilé, il a assimilé assez d'informations pour devenir presque un humain, en fait.
C'est ça, le truc. Et donc, elle veut absolument plonger, parce qu'elle veut savoir, elle dit, je veux voir ça, je veux comprendre ce que c'est, finalement, Puppet Master. Donc, avant que la section 6, ou je ne sais pas qui, en gros, arrive et détruise le corps, ou le récupère, machin ou quoi, l'enjeu, c'est ça. C'est pour ça qu'elle donne tout pour plonger, et c'est pour ça qu'elle va jusqu'à détruire son propre corps pour essayer de pénétrer le... Parce qu'en fait, elle veut juste buter le tank pour pouvoir se pluguer sur le reste de corps où il y a Puppet Master dedans, quoi. Et c'est ça qu'elle veut faire. Et on le voit bien à la fin, quand Batu, il arrive, elle dit, vas-y, câble-moi, connecte-moi, je veux plonger, quoi.
Pour moi, c'est juste... Enfin, déjà, ça parle sur des notions d'esprit et autres qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Enfin, je veux dire, pour être d'accord avec l'histoire, faut être d'accord avec l'idée qu'il y a un esprit. Et pour moi, la fin, c'est juste une nouvelle manière de se reproduire. Parce que ça reste la fusion de deux personnes qui décident de se mettre dans un même corps, qui est un corps d'enfant. Pour moi, c'est juste une nouvelle façon de se reproduire. Parce que qu'est-ce que tu fais en associant deux humains? Tu mélanges l'ADN, ça crée un nouveau truc.
C'est tout à fait
et pour
ça,
moi, ouais. J'ai l'impression que c'est ça la fin. Quoi. C'est juste... ils fusionnent comme deux humains pour créer une nouvelle entité. Un peu.
Là, je pense que c'est l'objectif de Puppet Master.
Exactement, parce qu'en fait, il dit pour survivre, d'une part, et puis tant que je serais pas capable d'avoir une sorte de descendance, de filiation, je vais toujours rester le même, je vais pas évoluer, je vais stagner, et c'est pas ça la vie. La vie, c'est l'évolution, machin et tout, donc je vais pas juste me copier-coller, ça marcherait pas. Donc il faut vraiment qu'on fusionne pour qu'ensuite ça génère un nouveau truc. Et en fait, ils se reproduisent pas. C'est juste une fusion, en fait.
Il n'y
a pas de notion d'un nouveau truc qui apparaît, quoi. C'est
intéressant parce que t'as aussi la différence entre elle qui a un cerveau humain et un corps bionique. Et bah, du coup, lui, qui est techniquement, qui a pas de corps et qui a, et son cerveau, enfin, il est inventé. Enfin, c'est une intelligence, c'est un programme. Et du coup, c'est aussi tout le truc sur le fait d'être sentient, à partir de quand t'es humain. Et mais du coup ça rappelle beaucoup la philosophie de Descartes, tout ça, sur c'est quoi la phrase, c'est est-ce que l'existence précède l'idée ou l'idée précède l'existence. Et si vous regardez des vidéos sur Ghost in the Shell, vous tombez sur des mecs qui parlent une heure de ça et tu dis wow, c'est complexe mais c'est intéressant.
Moi ça m'a mis un peu mal à l'aise, enfin parce que dans le futur, s'il y a une nouvelle forme d'IA qui est aussi intelligente, enfin pour moi c'est une autre forme d'humanité, parce que dans ce cas-là tu dis quelqu'un qui est tétraplégique, qui ressent plus rien, si tu pars sur ce principe que si le corps est inexistant presque, il ressent plus rien, n'est plus humain, enfin ça ouvre la porte à plein d'interprétations un peu dangereuses, on va dire. Enfin, je trouve que c'est se poser des questions un peu pour rien, mais c'est pas...
Mais ça veut dire qu'aussi, quelqu'un qui est tétraplégique pourrait transférer son esprit
son
dans
cerveau.
Un autre corps.
Ouais, bah donc ce serait pas si mal.
Pour se mouvoir.
Bah c'est non, ça. Mais c'est aussi des questions de transhumanisme pour le futur, quoi.
Voilà.
Cette impression de déjà-vu.
On se connaît ?
Ouais. On se connaît.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness at 10 hours a day. All those moments will be lost in time, like tears.
Ce que j'ai trouvé fou en regardant ce film, c'est à quel point il y a d'autres films après qui ont fait des trucs sur ce sujet-là. Et en fait, en le voyant, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, je l'ai vu 1000 fois. Alors que ce film-là devait précéder tout ça, quoi. En me disant, bah oui, le côté, c'est un programme, en fait, qui a pas d'enveloppe charnelle. Ça me surprend pas tant que ça, parce que je l'ai vu dans plein d'autres trucs après.
C'est ça, on a vu Mars Express, Ex Machina, des choses comme ça.
Oui, c'est ça, Ex Machina, il y a aussi ça, où c'est un scientifique qui fait un test de Turing à l'échelle humaine. Mais après, oui, il y en a plein. Alors justement, tu parles de Mars Express, qui est un film français qui est sorti en 2023. Qu'un film d'animation sur des robots notamment, et les créateurs assument clairement que c'est une des inspirations, que ça soit dans la thématique parce que ça parle d'intelligence artificielle et de programmes, de mise à jour, tout ça, mais aussi dans le visuel. Par exemple, il y a un combat contre une sorte de, comment dire, de tank araignée. Mais en fait, tout est un petit peu différent et même la philosophie est pas forcément la même à la fin du film, hein, donc c'est pas non
plus
trop.
Mais t'as quand même ce côté hacking.
Il y a un côté hacking de robots.
De la volonté des robots, t'as ce côté amélioration des performances du corps.
Ouais. En fait, il y a un truc sur une double identité robotique, tout ça. Et je conseille de voir Mars Express.
Oui, je comptais le voir.
Il doit être sorti sur les plateformes, j'imagine.
Et oui, j'imagine.
C'est très bien.
Il y a aussi beaucoup de similitudes, finalement, dans la thématique avec Blade Runner.
Oui,
avec
exactement.
Les réplicants qui se posent exactement cette même question-là. Est-ce qu'on serait pas un peu humain, finalement? Qu'est-ce qui définit l'humain? Et ainsi de suite.
Exactement.
Et pour le coup, Blade Runner, qui est bien antérieur à Ghost in the Shell, probablement que ça a été une inspiration... J'imagine, je sais pas si c'est quelque chose d'assumé, de dit, de connu ou pas.
Bah après, oui. Quand on regarde, ne serait-ce que les décors, enfin, oui. En plus du thème, en fait, les décors sont aussi, je sais pas si c'est inspiré ou si c'est lié à justement l'univers cyberpunk. On retrouve les grandes villes dans la nuit avec plein de panneaux lumineux.
Il pleut.
C'est ça.
Et il y a de la street food, bien sûr.
Oui, bien sûr. Qui est Blade Runner, qui est, ce que je me demandais, si c'était adapté d'un bouquin ou pas.
Oui.
Et donc oui, c'est quoi, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques?
De Philippe K. Dick.
Voilà. Donc c'est un peu l'idée, ouais, est-ce que les pensées définissent notre humanité aussi?
C'est ça.
Tout à fait. Sur l'idée de l'enveloppe corporelle, j'ai pas pu m'empêcher de penser que, évidemment, ils ont fait une enveloppe corporelle absolument parfaite de ce qu'on pourrait s'imaginer d'une femme. Et en plus de ça, elle est quand même souvent à poil.
Bah, c'est ça. Au début, je me suis dit, ok, c'est juste une excuse pour dessiner des courbes sympathiques.
C'est ça. Et puis, après, il y a aussi le personnage de Batou, dont on n'a pas beaucoup parlé. Lui aussi, c'est un peu pareil. Il a un corps athlétique, c'est une masse, quoi.
Ouais, il a des yeux bioniques.
En fait, ça m'a fait marrer, juste le fait qu'il évoque le fait qu'il aime faire de la muscu. Alors qu'en fait, ça ne changera absolument rien, c'est juste qu'il aime ça. Voilà.
Oui.
Ça m'a fait rire.
Alors il y a aussi d'autres personnages dans l'équipe, mais alors je crois que dans le manga ils sont un peu plus, et ils ont décidé dans l'adaptation de réduire l'équipe, bah parce que il y avait qu'une heure trente. Je crois que normalement ils sont 5 ou 6.
J'allais dire c'était trop cher de payer trop d'acteurs, mais c'est con.
Non, c'est pour le.
Ah, il y a des doubleurs quand même.
C'est vrai.
Oui.
Qu'on disait sur le fait que ce soit très très posé, les animations m'ont assez bluffé. Je trouve ça assez magnifique, les décors. Et en fait, apparemment, c'est un mélange de plusieurs techniques d'animation. Il y a un mélange entre celluloïde, donc ce qui est la technique traditionnelle du dessin animé en fait, et des effets numériques. Et moi, il y a un effet que j'ai beaucoup aimé, c'était alors, je sais pas, en fait, si c'est réellement ça, mais en tout cas, ouais, c'est le sentiment que ça m'a donné, c'est que parfois, on a des plans statiques avec un personnage donc qui est en voix off et tout, et en même temps, on a l'impression que ça avance vers lui, mais de façon ultra lente, alors qu'en fait, c'est sûrement statique en vrai, mais il y a un effet, je trouve, de... Bah, je sais pas, d'avancer vraiment très lente, quoi.
Faudrait que je regarde.
Moi, j'adore la scène où elle se bat. Au corps à corps là,
avec dans la
tenue d'invisibilité dans la flotte, c'est incroyable là. Cet endroit là quoi, de la ville, où en fait c'est une sorte de, je sais pas, en fait t'as 50 cm de flotte, c'est pas trop pourquoi.
Oui.
et t'as un mec qui s'est fait hacker, et du coup qui est manipulé par le Puppet Master, qui lui a même inventé une histoire pour en fait, je pense qu'il a besoin de mitonner un peu le gosse qu'il est en train de hacker pour pouvoir peut-être
lui donner une motivation,
lui donner une motivation, ainsi de suite, et il se fait défoncer
par tous les membres, je crois.
Par Kusanagi, ok, alors qui est dans un corps de cyborg dernière génération en mode ceinture noire 12e date de Krav Maga, et en plus qui est invisible, qui n'a aucune chance.
Petit détail.
Mais la scène est très très cool, et
c'est une
scène culte.
Et en plus, je sais pas, en fait, en vrai, elle est reposante. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté. Alors que c'est de la bagarre, mais ouais.
Cette tension entre silence, eau plate, et puis d'un coup, des flaques qui explosent.
Ça fait un peu sursauter. Et en même temps, oui, c'est reposant. Est-ce que vous aviez essayé les romans, les autres mangas qui sont sortis avant, après, les jeux vidéo?
La série?
Ouais.
Pas du tout.
Je crois qu'il n'y a eu aucun bon jeu vidéo.
Il y en a eu plein, hein. Il y en a eu 4. Je vois qu'il y en a eu un sur PC en 2016, mais avant c'était PlayStation 2005. Enfin, il y en a eu 2 sur PlayStation apparemment. Le premier qui est sorti, c'est en 98, aussi sur PlayStation, donc avec la section 9 en mission aux commandes.
Et je sais pas si c'est le genre de jeu, enfin d'univers qui soit transcrit bien en jeu vidéo.
pourquoi pas.
En fait, ils te mettent des pavés de PDF de
tes... Bah, en fait, alors, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est de l'action?
Analyse
est-ce que...
existentielle. Parce qu'en fait, effectivement, si tu respectes bien le truc.
C'est ça.
C'est le dilemme de Pascal.
Choisis, es-tu humain ou non? Clique sur oui ou non.
C'est ça. Puis c'est surtout, en fait, tu te lis des PDF de 50 pages qui te posent des grosses questions métaphysiques. L'œuvre, elle est quand même, enfin, c'est un truc assez intellectuel, quoi. Bah, même ouais. Si,
ouais. Tu ça peut être construit ton cyborg, tu vois. Tu récupères des membres à droite, à gauche, un bras.
Oui, c'est vrai.
Apparemment, c'est un jeu d'action. D'après sa fiche Wikipédia.
D'action philosophique.
Non, mais s'il y avait eu des bons jeux faits sur cette licence, ça se saurait. Mais donc, après, je pense que c'est tous des trucs très, très.
Mais il y a un jeu vidéo dans cet univers-là, c'est Cyberpunk 2077, c'est ça?
C'est ça. Mais là, du coup, enfin, c'est pas cet univers-là,
c'est
le cyberpunk.
Cet univers-là, c'est le cyberpunk, mais t'as aussi des idées d'améliorer ton corps. C'est vraiment
c'est le cyberpunk,
c'est le cyberpunk ouais. Tout simplement.
Mais par contre après en termes d'imagerie, cette œuvre elle a une énorme influence sur
l'esthétique.
Sur l'esthétique et sur comment on se projette maintenant un peu voilà un futur dystopique ultra high-tech. Bah tu penses à ces images là quoi.
C'est ça,
carrément ça qui arrive en tête.
Comme quoi ça peut tout changer, parce que s'ils avaient fait un film où les gens s'étaient greffés des têtes de chiens, on serait là, bon bah c'est ça notre futur quoi.
C'est ça. C'est moi ça. Je serais un caniche.
Royal.
Je sais d'imaginer.
Et vous serez... Moi j'ai que des petites pattes, je suis un corgi.
Quand tu réfléchis un peu, tu te dis, mais attends, dans ce monde-là, en fait, on peut intégrer n'importe quel corps cybernétique. Donc, en fait, pourquoi on continue de faire ouais, des corps à l'image d'humain, tu vois? Tu peux très rapidement te dire, bah, en fait, parce que sinon, c'est chelou. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, comment tu veux interagir avec des humains si toi, tu ressembles, tu vois, je sais pas, un camembert? Non, mais en fait, si tu ressembles pas à un humain, du coup, il va forcément y avoir un mécanisme de rejet, peut-être. Exactement. De peur,
puis,
et ainsi de suite.
Si t'as un cerveau, t'as quand même droite, gauche, enfin, il y a quand même un truc de symétrie, oui. Aussi de oui. Contrôle, je sais pas si...
Et puis, dans le cas de, peut-être de la section 9 et machin, surtout quand t'es terroriste, peut-être parfois ils ont besoin de s'infiltrer.
Oui, c'est ça, il faut interagir avec des humains.
Après, au final, est-ce que le tank, c'est aussi, il pourrait avoir l'IA dedans, là, l'espèce de tank, ça pourrait très bien être un corps, qui reçoit une intelligence artificielle.
Mais on l'a plusieurs fois dans ce film, cet exemple-là. À un moment, il y a une voiture avec l'un des chefs, je crois, d'une des sections, et il y a une femme qui est sur un ordinateur, et en fait, elle a pas des mains, elle a des, une cinquantaine de doigts qui lui permettent de taper très vite. Ce qui est d'ailleurs encore plus ridicule parce que dans un vrai truc réaliste, elle aurait même pas de doigts parce qu'elle pourrait être directement branchée. C'est assez drôle d'avoir une interface physique alors que finalement elle pourrait
ce délire des doigts télescopiques qui se multiplient par trois
c'est très drôle. Mais c'est vrai que cette question là elle est intéressante. Il y a certains métiers qui n'auraient aucun intérêt de garder une forme bipède, humaine.
Mais en plus ton esprit il est fait pour contrôler deux jambes, deux bras, tu vois ce que je veux dire?
Oui,
en fait, ton cerveau, il est quand même câblé comme ça, quoi. Et peut-être que du coup, ça fonctionne pas, si ça ressemble pas à un humain.
Moi, si on fait la première étape, genre, parce que là, en fait, c'est des humains, mais qui ont quand même des attributs, genre des yeux bioniques.
Ouais.
Et peut-être que l'étape suivante, la version 2, ce sera encore plus
même pas
robotique,
des yeux, en fait. Des capteurs infrarouges.
Et au fur et à mesure, peut-être que ça, ce sera une évolution vers un truc qui ressemble pas du tout à un humain, quoi.
Il y aura plus des câbles. On se baladera par câble.
Des
câbles. On sera des
Il y aura une tête de câble RJ45, ça sera.
Avec les doigts pinces.
Dans mon métier où je fais de la cuisine, ça voudrait dire que j'aurais juste des couteaux à la place des mains. Je pourrais pas vous serrer la main. Allez, c'est bon, je t'ai tué, Vincent.
C'est Edouard.
Manger le pain aussi, il y a pas que.
Oui, mais j'aurais plein de couteaux différents.
Ouais.
Et puis j'aurais un bras fort pour pouvoir porter les poils.
Juste avec ton bras. Mais Maxime, on n'aura plus besoin de manger.
Je pourrais souffler. Je pourrais souffler du feu.
Tu fais à manger pour les humains.
Ah, parce qu'ils sont encore là, c'est con.
On est encore humains.
Ils sont quoi?
On est modifiés.
Les losers. Les vaches là, les grosses vaches.
On est encore humains. C'est juste qu'on est modifiés.
Ouais.
C'est bon,
on fait une émission de philo finalement.
On va faire des cauchemars cette nuit, mais est-ce que je suis vraiment vivant?
Moi ça devrait aller.
Qu'est-ce qui définit mon humanité? J'avais vu quelques petites choses sur le réalisateur Mamoru Oshii. Apparemment, il a collaboré dans son début de carrière avec deux grands de l'animation japonaise, Miyazaki et Takahata.
Ah bah dis donc.
Donc sur un film qui s'appelait Encore, mais qui est resté à l'état de projet pour cause de désaccord artistique. Par contre, ils sont restés quand même respectueux, mais sceptiques vis-à-vis du travail des uns et des autres.
C'est vrai.
Oshii critique plutôt le côté idéaliste de Miyazaki, et inversement, Miyazaki reproche à Oshii de ne pas chercher assez le divertissement. Donc on a pu le ressentir avec toutes ces leçons de philo, mais ça ne les a pas empêchés de travailler ensemble plus tard, en 2004, avec Innocence Ghost in the Shell 2, qui était le premier film d'animation sélectionné pour concourir pour la Palme d'Or à Cannes, produit par le studio Ghibli. Et après, il a fait aussi plein d'autres trucs en dehors du studio Ghibli. Il a réalisé une série de films qui s'appelle Pat Labor, qui montre
Patrouille.
Qui Pat Patrouille. C'est la version japonaise de Pat Patrouille.
Vous l'avez dit qu'on finirait avec des chiens.
Ouais. Donc, qui montre un futur proche où la crise sociale et les défis écologiques ont été résolus grâce à la technologie. On reste toujours dans le milieu technologique. Et donc à cette époque-là, il a réalisé 3 films, et vous allez voir que tout est lié dans la vie. C'est une trilogie, et le premier film s'appelle Lunette Rouge, ça a été réalisé en 1987. Film noir, faisant explicitement référence à La Jetée, de Chris Marker, bien avant L'Armée des Douze Singes, voilà. Cinématique Universe.
Et le troisième film, c'est quoi, Le Grand Bleu?
Je pense que c'est La Totale, avec Jean Benguigui. Fameux acteur japonais.
Mais bien entendu.
Voilà. Est-ce que vous avez
Jean-Benguigui.
Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur Ghost in the Shell, première version?
Bah non, regardez-le.
Voilà. Alors, on va pouvoir passer au suivant. Oui. Ghost in the Shell, sorti en 2017. Titre québécois, Ghost in the Shell, le film.
Parce que l'autre, c'était quoi?
Je sais pas.
This is Major. I'm on site. I'm going in.
You are the first of your kind. But you're not invulnerable.
Maybe next time you can design me better. Everyone around me, they feel connected to something. Connected to something I'm not.
What are you?
You were dying. We saved you.
And now you save others.
Words and violence. Break the silence. I never wanted to die. Whatever needed is here.
I don't know who to trust.
You trust me, right?
I know I have a past. I'll find out who I was.
Je vais d'abord pointer quelques différences, puis je vais faire un rapide résumé. Si j'ai bien compris, donc dans l'original, c'est le gouvernement qui est un peu le méchant, et dans le deuxième, c'est plutôt des corporations, plutôt des sortes d'actionnaires, j'en sais rien. Il y a 3 personnages qui n'étaient pas là, et un qui est une sorte de fusion de 2 persos. Déjà, il y a le docteur Ouellet, qui est joué par Juliette Binoche, qui est la créatrice de l'héroïne, et donc qui n'était pas dans le premier. Cutter, qui est un peu le méchant PDG de Anka Robotics, ou je sais plus.
Oui, c'est Anka.
Yes, Anka.
Paul Anka, le chanteur.
Et le Puppet Master est en fait un mix du Puppet Master du manga, et de Kuze, qui est un personnage de la saison 2 de la série télé. Donc déjà, on part avec ça en tête. Il y a la maman aussi de l'héroïne qui se retrouve dans le remake. Ouais. Donc je vais un peu répéter, mais j'ai quand même fait un petit résumé. Donc là, une femme incarnée par Scarlett Johansson, et technologiquement modifié dans la lignée des biohackers et transhumanistes, après avoir été soi-disant impliquée dans un accident, elle est sacrément modifiée puisque son cerveau est implanté dans un corps de cyborg dans le but de faire partie d'une force antiterroriste. Elle devient donc le Major, une combattante sans égale. Mais la technologie ne règle malheureusement pas tous les problèmes. Un pirate menace les membres de Anka Robotics, la société qui a créé le Major, ainsi que son équipe, la section 9. Ce pirate dénommé Kuze n'est autre qu'un ancien sujet test de Anka Robotics qui s'est avéré être un échec et qui est maintenant hors de contrôle. Il informe le Major que Anka Robotics a volé, effacé ses souvenirs et que ces derniers l'utilisent pour leur propre gain. Le PDG Cutter Anka tente d'éliminer le Major, mais sa conceptrice, le docteur Ouellette, révèle au Major l'adresse de son ancienne maison. Le Major retrouve sa maman, qui à travers les traits inconnus de cette nouvelle enveloppe corporelle semble percevoir le ghost, l'esprit, l'aura, l'onde cérébrale, faites votre choix, de sa fille. Cutter Anka envoie ses hommes tuer tous les membres de la section 9, mais le Major et son équipe arrivent à le tuer en premier. Kuze est néanmoins éliminé, le chef de la section 9, Aramaki, élimine Cutter Anka, après avoir appris que ce dernier avait mis fin au jour du docteur Ouellette. J'ai essayé de varier les formulations pour tuer et mourir. Le Major a à peu près les réponses aux questions qui l'empêchaient d'avancer et décide de continuer à la fin de travailler pour la section 9. Cette fois-ci, maîtresse de ses souvenirs et de son histoire, mais surtout de ses actes et de son avenir.
Ouais. Merci. Voilà.
Bravo.
En regardant le film, je me suis dit que l'histoire du remake n'avait pas grand-chose à voir avec celle du...
Il y a ce côté expérience ratée.
Ils ont pris vraiment le tout premier truc, c'est il y a des robots qui se font hacker. Et puis après...
Ouais, bah, c'est apparemment, ça, après, c'est d'inspirer des autres... soit de la série ou d'autres animés, d'autres... ouais. C'est un mix de choses.
Ok, avec toutes les autres versions, voilà. Les préquels.
Un mélange de personnages, en fait.
Mais ça pose à peu près les mêmes questions philosophiques.
J'ai trouvé ça un petit peu plus clair. Certains disent justement un peu édulcoré, mais moi, ça m'a permis de me projeter un peu plus sur ce côté recherche d'identité, se sentir utilisé. On le sent plus dans celui-là, je trouve. Côté j'ai été manipulé, on m'a vraiment volé ma vie, en fait. Qu'il n'y avait pas dans l'autre, qui est juste est-ce que je suis humaine ou pas. Là, c'était... je suis humaine, mais je suis qui? C'était plus cette question.
C'est pas du tout la même histoire, quoi.
Ouais.
Il y a le truc de la quête des souvenirs, qui est beaucoup plus appuyé. Enfin, mais qui n'existe même pas dans le premier, je crois.
Non, là en fait, c'est un peu plus, j'allais dire, terre à terre. C'est que la quête du film est plus vraiment personnelle, par rapport à Motoko. Alors que dans l'original, ça reste, même si c'est elle le personnage principal, en fait, c'est quand même le Puppet Master qui est un peu au centre de l'histoire, alors que là l'histoire elle est forcément liée à elle personnellement, donc parce que finalement à la fin on découvre en fait que c'était son frère et l'histoire
c'était son frère ou c'était son mec
ou son frère, j'ai un doute, dans leur vie passée
ils étaient liés
quoi, et donc il y avait ce truc où bah la grande histoire en fait est liée à son histoire personnelle à elle, qui était pas trop le cas dans l'original.
Nous en tant que spectateurs on touche plus à notre côté humain, où ils vont utiliser les propres de ce rapport à la créatrice, la culpabilité, la mère qui a perdu son enfant, qui sait pas ce qu'elle est devenue. Enfin, il y a pas du tout ça dans le premier, où comme on disait ils ont pas de réaction, ils ont pas de lien entre eux. Enfin, pas énormément. Et là, il y a tous les outils pour qu'on comprenne un peu mieux ses questionnements et son mal-être, en fait. Ça peut parler plus à un être humain.
C'est un peu plus humanisé, c'est un peu moins opaque.
Voilà.
Mais alors, pour le coup, c'est même l'inverse de la morale de l'original.
Ah ouais?
Bah, moi, je trouve qu'ils sont un peu passés à côté du message. Alors, après, ils l'ont peut-être fait consciemment. Déjà, t'as pas ce côté esprit sentient, un programme sentient. Là, en fait, le Puppet
c'est
Master, c'est un ancien terroriste, et puis...
C'est même pas des terroristes, en vrai.
Non, c'était des activistes, enfin, ils appelaient
ils étaient un peu dissidents par rapport...
Ils étaient aussi surtout des immigrés, si j'ai bien compris. C'était un camp de migrants.
Ouais, j'ai pas du tout compris.
Ah oui?
Si c'est ça, ils faisaient partie.
C'est des gamins qui refusent, des jeunes qui refusent totalement le côté tout technologique de la société dans laquelle ils vivent.
Ah,
et du coup, en fait, ils se battent, ils fuguent, hein, donc ils rejettent vraiment, cette vie-là, et ils vont dans ce qu'ils appellent, du coup, la zone libre. Donc en fait, qui est une zone un peu genre, c'est un peu mode terrain vague désaffecté où il y a pas de, il y a pas d'infrastructure, il y a pas de lieu de vie en soi quoi. Et donc en gros, ils survivent un peu. C'est un peu des clandestins quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la grosse compagnie qui est dans l'histoire, en fait, elle a plus ou moins kidnappé ces gens-là, elle a niqué leurs souvenirs pour faire des expériences dessus. Et l'expérience, c'est est-ce qu'on peut prendre un esprit humain ou un cerveau et l'intégrer dans un corps complètement cybernétique? Donc l'histoire du remake, c'est ça, ce qui n'a absolument rien à voir. Et du coup, elle, tout au long du film, elle se bat finalement pour savoir qui elle est, parce que ses souvenirs ont été niqués.
Elle sent qu'il y a un truc.
Elle a des flashbacks.
Et c'est la première version, après des dizaines et des dizaines d'essais, qui fonctionne, qui est fonctionnelle, quoi. Sachant que la version d'avant, ou alors une des versions d'avant, c'est comment il s'appelle le personnage, je sais plus.
Cousé. Ouais. Sachant que le docteur Juliette Binoche, elle révèle qu'il y a eu beaucoup. À un moment, elle donne le chiffre. Je crois
qu'il y a eu 98 essais foirés avant toi. Et donc lui, ça fait partie des effets foirés. Et donc lui, en fait, il veut se venger de cette corporation-là. Et donc là, pour le coup, lui, il est plus en mode terroriste. Ouais.
Oui, lui, c'est il a des actions terroristes.
Mais en fait, le méchant de l'histoire, c'est
Cutter. Il coupe les vivres, il coupe les espoirs.
Cutter, le patron de la boîte.
Oui, c'est Elon Musk, quoi. C'est le Elon Musk de leur univers.
Ouais, c'est ça.
Alors, on n'a pas parlé de tous les personnages. Là, on retrouve Batou et on Batou, a exactement et on a leur chef qui est alors je sais plus le nom de son personnage.
C'est Takeshi Kitano
ouais. Qui du coup nous offre des scènes assez étranges. C'est que tout le monde lui parle en anglais et il répond en japonais parce que je crois que c'est dans son contrat, il ne veut pas parler anglais.
Il y a vraiment un décalage du coup quand
il y a il y a des gens qui aiment pas ce truc-là. Moi, je trouve ça très drôle. Que ça paraisse normal pour
tout
le monde.
Mais il a
une
tête de cartoon, quoi. On dirait que.
Mais il est génial. Alors ça, du coup, Kitano, c'est un réalisateur et acteur, hein, mais surtout réalisateur et producteur.
Et acteur et animateur
et
télé
tout,
et peintre.
Tout.
Et animateur sportif.
Ouais, il est assez
c'est Oprah.
C'est une star au Japon.
J'allais dire en France, je sais pas si on a un équivalent, mais Oprah, c'est pas mal.
C'est pas français. Elle est pas française.
Oui, justement.
C'est notre
équivalent.
C'est notre Arthur.
En France,
Cyril Hanouna, comment il s'appelle,
on n'a pas de personnalité qui fait autant de choses quoi, parce qu'il a fait aussi de la musique je crois,
il a écrit des bouquins, il a fait de la musique,
il a laissé de la place à personne quoi, mais ouais c'est vraiment une immense star ce grand monsieur, ce poteau. Et il joue leur chef.
Un bon gars.
J'adore la scène où Kusanagi a découvert le poteau rose, comme on dit. Balance l'info à la section 9. Takeshi Kitano, il est en mode, faut que je joue mon rôle quand même là-dedans. Il se barre des locaux de la section 9 et tout ça. Et t'as plus ou moins un commando de tueurs qui est envoyé pour le buter. Il les défonce. En fait, il a sa petite mallette par balle, je sais pas quoi. En deux temps, trois mouvements, il bute tout le monde. Et il dit un truc genre, on n'envoie pas une souris pour chasser un renard.
Ouais. Ça doit sonner tellement bien en japonais.
Ouais, carrément.
Et il y a une autre différence, c'est le personnage de Batou. Et quand on commence le film,
il est 100% humain.
En tout cas,
son corps.
Son corps est humain.
Il est 100% humain. Il a des upgrades au niveau du cerveau.
Oui, c'est
comme
ça.
Comme tous les personnages, je pense.
C'est ce qu'ils disent, ouais. À un moment, dans la voiture, ils le disent qu'il y a quasiment plus personne qui a un cerveau.
De base, quoi.
À part Motoko, finalement. Parce qu'elle, c'est l'inverse. Elle a que des upgrades physiques, mais pas.
Non, elle a aussi, je pense, des upgrades.
Ah ouais.
Oui, parce qu'il y a ce truc, elle a quatre trous derrière.
Ah bah oui, c'est son.
Elle infiltre des choses.
Bah en fait, c'est.
Désolé, c'est mal dit, mais.
Et on apprend plus tard qu'en fait, c'est ce truc-là qui fait que ses souvenirs sont effacés.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais, mais le pseudo médicament qu'elle est censée prendre.
Ça, c'est
un vrai. Elle y est branchée, en fait.
Et en fait, dans le film, on assiste au moment où ils sont en mission et ça tourne mal. Donc, elle, son corps est en partie détruit, mais bon, ça a l'air d'être la norme de régulièrement, son corps est refait.
Mais grâce au médoc, elle a la 5G, hein.
C'est ça. Oui, ouais, c'est pas mal. Et lui, Batou, donc, il a le visage qui est un peu abîmé, donc ils ont profité pour lui mettre des yeux bioniques, donc qui sont les mêmes qu'on a vu dans l'original. Et il y a une scène un peu touchante parce qu'avant, on voit qu'il nourrit des chiens. Et en fait, quand elle le voit en train de, avec les nouveaux yeux, il lui dit, est-ce que tu pourras aller donner à manger à mes chiens? J'ai pas envie d'y aller, j'ai peur qu'ils s'enfuient.
Ils avaient peur.
Ouais.
Encore une fois, un truc plus d'émotions, plus humain.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, film, il a conscience que lui,
de trucs de responsabilité,
il est entre guillemets amélioré, mais en fait, son seul lien social, on comprend plutôt que bah il récupère tous les chiens errants de la rue, et en fait, il va peut-être s'éloigner de ce truc-là parce que il va leur faire peur, quoi. Donc ça, c'est intéressant, cette partie-là.
Bah, il faut bien des têtes de chiens pour pouvoir mettre sur les corps.
Ah non. moi, je serais probablement un border collie.
Ah ouais, merci de répondre à cette question. Et toi? Tu serais un labrador ou plutôt rottweiler?
Moi, je serais la caste.
Moi, je serais un bon pépère. je serais un bon pépère.
Toi, tu serais berger blanc suisse.
Berger blanc suisse.
Oh oui.
Oh bah, c'est classe, j'aime bien.
Ah oui, c'est
trop
beau
comme chien. C'est trop bien. It's a phenomenon known as déjà vu. On garde la direction artistique un peu Blade Runner, oui.
C'est beau, je trouve.
Oui, pleut, ouais. On est dans une ville un peu tokyoïte.
Les néons, les hologrammes.
Des pubs gigantesques qui font la taille d'un immeuble.
Ouais. Oui, clairement, vrai. Littéralement.
Des hologrammes qui
mais
font,
à côté de ça, il y a aussi des petits trucs.
Je trouve que c'est prenant, en fait, cet univers-là.
Ouais. On sent qu'il y a un travail de création d'univers. Alors j'ai pas vérifié, mais je pense qu'ils ont tourné en grande partie à Hong Kong parce que on reconnaît un peu ce mélange et même la baie en fait quand on voit les deux villes avec les bateaux qui passent là. C'est assez beau, c'est une ville qui se prête aussi au cyberpunk. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez pensé du fait que ce soit en prise de vue réelle comparé à l'animation?
Par exemple esthétiquement, j'ai bien aimé moi les geishas. Ça rendait vraiment bien
au début.
Au début,
ouais. Ouais, donc il y a des elle est incroyable, je trouve.
Personnages avec des masques de geisha.
Ouais.
Et à moitié arachnéide, quoi, avec des pattes comme ça.
Ça, c'était bien fait.
On dirait un peu des yokai.
Ouais, tout à fait, ouais.
Alors, j'ai pas fait la recherche à quel yokai ça
correspond. Il y a certains moments où ça peut faire un peu film de seconde zone, mais des très beaux moments aussi, je trouve, esthétiquement. Mais c'est pas égal tout le temps.
Reprocher un truc, c'est que j'ai l'impression que les seuls moments de mise en scène un peu jolis, c'est des copier-coller de l'original.
Genre ça quand ils la construisent au début par exemple.
Après c'est que l'image de synthèse donc c'est assez peu intéressant.
Je trouve que ça rendait bien.
On dirait un peu le générique de Westworld. Et oui, en fait la scène de bagarre dans l'eau là en fait c'est quasiment plan pour plan celle de l'original. Donc moi j'ai trouvé ça la ville est jolie mais le reste j'ai pas trouvé ça très pertinent. Et Scarlett Johansson, moi, voilà. Ouais. Pourtant, j'aime bien, hein, mais...
Moi aussi. En fait, c'est un truc qui m'a gêné,
un peu tiède, quoi.
Dans sa démarche, je crois.
Ah ouais, carrément.
Allez, joue au beau, Scarlett.
Ouais, parce qu'en fait... mais je pense qu'il y a un côté un peu surjoué.
Ah bah oui.
C'est-à-dire que, effectivement, elle a un corps, toutes les preuves et tout ça. Et puis, je sais pas, peut-être qu'elle est énervée.
Démarche,
elle veut marcher vite, elle veut
avoir...
Elle
devait pas être hyper à l'aise dans son costume, je pense.
Ça colle un peu
là.
Elle a une démarche agressive en fait, tu sais.
Oui.
Je sais pas comment dire.
Oui, elle avance.
Un peu les épaules en avant là. Je vois ce que tu veux dire.
Elle est un peu courbée, et en même temps, elle est hyper déterminée quoi.
Ouais.
C'est un peu
Puis la teinture noire, ça lui va pas trop bien. elle a pas mis de perruque. Ce sont ses vrais cheveux qui ont été teints.
Ça a été beaucoup critiqué le fait que ce soit une actrice occidentale qui joue une japonaise en fait.
Bah c'est ça. Après dans
le scénario, elle ressemble à rien.
Après c'est un cyborg.
Moi je comprends le choix d'un point de vue économique, c'est que c'est un film hollywoodien, il faut une star pour vendre un film.
Et...
Bon après oui.
Elle a la plastique qui va avec aussi.
Je trouve qu'il y a pas tant. Enfin c'est pas le premier choix que j'aurais pris, je sais pas.
Alors au départ, saviez-vous qui c'était?
Celle qui joue dans Underworld.
C'était Margot Robbie.
Oh. Ah bon, elle était pas connue à l'époque.
Je sais pas. Elle était en pourparlers, mais finalement, elle a préféré s'investir dans Suicide Squad.
D'accord.
Voilà. Au final, c'est Scarlett qui est arrivée.
Oui. À peu près le même.
Je sais pas si elle a
le même impact.
Chance, Margot Robbie, mais.
Ouais. Quand j'ai eu l'info qu'il allait y avoir un remake live et que c'était Scarlett Johansson, j'ai fait hein? Je l'imaginais pas du tout dans un rôle comme ça, quoi, en tout cas.
Ouais, pourtant, elle a fait des films d'action et tout. Après, la scène où on voit qu'elle s'éclate les bras un peu comme dans l'original, bizarrement, moi, je l'ai trouvé moins réaliste que la version animée.
Ouais, carrément.
La version animée, il y avait un côté, c'était plus lent. Là, c'était, c'est un peu bâclé, quoi. Et paradoxalement.
Et en plus, dans les mecs, elle y arrive. Alors que normalement, elle n'arrive pas.
Normalement, elle s'explose le dos et les bras.
Un bras au moins.
Bizarrement, la version la plus photoréaliste, je l'ai trouvée.
Réaliste.
Ouais, c'était très étrange.
C'est vrai.
Là, je sentais plus les muscles artificiels dans l'original que là. Mais là, parce que sa tenue, elle est un peu bizarre, c'est un peu blanc opaque. C'est censé être à la fois, on sait pas si c'est sa peau ou si c'est pas sa peau.
Bah, c'est sa combinaison d'invisibilité, quoi.
Ouais, mais est-ce que c'est sa, normalement, c'est sa peau vu que c'est un cyborg.
Elle a des espèces de bugs faciaux aussi, je trouve, surtout dans la première scène où on la voit un peu se réveiller, en fait. Je sais pas, j'aurais pu s'imaginer justement un visage sans expression. Et après, enfin voilà, c'est un choix artistique, quoi.
Ah, maintenant que tu le dis, ça aurait été intéressant qu'ils essayent de jouer là-dessus. Sur le côté, en fait, je suis juste dans une enveloppe corporelle. Et donc, en fait, peut-être nous montrer aucune sentiment, émotion sur le visage, quoi, dans le jeu de l'acteur. Voire ne pas cligner des yeux.
Ouais.
Tu vois.
Et sinon, sur la musique. Moi non plus, ça m'a pas non plus hyper marqué, mais j'ai juste lu que c'était les thèmes de Kenji Kawai qui ont été retravaillés par Clint Mansell, qui a composé la musique de Requiem for a Dream.
D'accord.
Donc une des musiques qui quand même est reprise dans tout le monde entier, dans toutes les pubs, dans toutes les bandes annonces de cinéma,
c'est clair.
Moi j'ai fait des montages vidéo étant adolescent en mettant la musique.
Bien sûr, moi j'ai fait mon solo de danse au bac.
Tout le monde a son histoire. Accessing hotel security network.
What are you seeing, sir? Modern number one, hunger, sunshine.
Got it.
43rd
floor.
Aussi un truc qui n'a pas abouti, c'était au départ Steven Spielberg qui avait
Spielberg
qui avait acquis les droits du manga
qui avait
d'origine.
C'est vrai.
C'est moi, il est partout ce gars.
Il est partout.
Et ce mec est partout.
Il est inconnu, il est partout.
Vous avez entendu parler, vous ?
Après, ouais. Du coup, ça doit être à ce moment-là où il a fait Ready Player One.
Et donc, j'ai vu aussi, le saviez-vous, qu'il existait un projet d'adaptation d'Akira en prise de vue réelle aussi.
Oui, mais alors, je crois que ça date depuis longtemps.
Ça date, ouais.
Mais c'est peut-être pas plus mal qu'il l'ait dans le carton. Mais
je suis
assez
d'accord. Donc, il y avait des rumeurs comme quoi Christopher Nolan était attaché au projet, puis Jordan Peele, puis Taika Waititi.
Ah ouais.
Mais ce projet n'a jamais été poursuivi, ce qui est une bonne chose.
Bah, surtout que c'est des mecs qui font des projets originaux dans le sens où c'est pas des adaptations. C'est très bien ce qu'ils font. On continue comme ça, les gars.
Ouais, carrément.
je suis derrière vous, je vous soutiens, changez pas.
Taika, Jordan, on vous aime.
Racontez vos propres histoires.
C'est ça. Be your own
master.
Votre vie
a de la valeur, merde. Allez.
Be yourself.
Be yourself, quoi.
Don't adapt.
The other stuff. Sky is the limit.
Do you need to adapt this film?
You don't need the fox to find the mouse.
Yes, you have very good career so long, so keep going.
Voilà, merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur Ghost in the Shell version 2017?
Moi, j'ai trouvé la scène de combat de fin un peu brouillon parce qu'elle rentre dans ces codes de on va tout faire de nuit et on va rien voir. Contrairement à l'original où c'était calme et tout, elle était toute seule. Là, c'est on voit rien et puis voilà.
Clairement plus un film d'action, ouais.
Oui, c'est plus un film d'action, ouais.
Et donc où certaines actions ne servent à rien, comme voilà. Dans beaucoup de films d'action.
Oui, oui. Si vous portez là-dessus, madame.
Plus d'action, moins de blabla. Dialogue plus simpliste, mais qui moi m'ont convenu.
Ok.
Je tiens à le dire.
Ça donne quelques petits
Ça
indices.
Ça donne sur ce que j'aime.
Oui.
Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture.
Ghost in the Shell animé ou en prise de vue réelle, lequel est le meilleur? Mélissa, qui se cache derrière son micro bionique.
Mélissa, t'as adoré, allez.
Non, ce que je veux dire, c'est que je pense que je vais me faire des ennemis parce que...
Je n'aime pas Steven Spielberg, voilà. Bon.
Si. Non, mais je pense que la chose à faire, ce serait voter l'original, parce que c'est la base, c'est
beau. Il n'y a pas de chose à faire, Mélissa.
Je quitte ce podcast, je vois très bien où tu veux en venir.
Dans mon petit esprit étriqué, faut dire, je vais voter.
On n'a rien dit en plus.
C'est clair.
Je vais voter, mais non, mais je plaisante sur le fait que ce soit moins subtil et un peu plus grossier dans le remake, mais je vote remake parce que j'ai pris plus plaisir à suivre l'histoire. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer. J'étais pas émue non plus, mais j'ai plus compris ses questionnements et sa quête que dans l'original. Et moi, j'avoue, j'aime bien quand même tenir à l'histoire et être intéressé par ce qui va se passer.
D'accord, merci. Vincent.
L'original, bien évidemment.
Bien évidemment.
comme toute personne bien
constituée.
Voilà, alors on va très vite oublier la vie précédente. je pense qu'on va rétablir les choses. Bah non, mais Ghost in the Shell, c'était une claque quand je l'ai vu étant ado. Il y a un biais, hein, comme tout ce qui nous a marqué étant plus jeune. Mais non, visuellement, l'ambiance et l'histoire, même si effectivement il faut s'accrocher, c'est pas forcément évident. Je trouve qu'en fait l'idée de départ est beaucoup plus intéressante que le remake, où c'est quand même très bateau. Même si, en fait, j'ai pas passé un mauvais moment sur le remake, loin de là. J'ai beaucoup aimé voir Takeshi Kitano. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu à l'écran. Mais l'original.
Maxime.
Eh bien, ça sera l'original pour moi également. Bah, j'ai moins de nostalgie que toi, Vincent, mais plus pour le côté l'impact que ça a dans le monde de l'animation. Et peut-être aussi en vieillissant, j'aime bien les films où je comprends pas forcément. Je comprends pas forcément tout, mais on sent que c'est une expérience, quoi. Après, en effet, j'ai pas non plus passé un si mauvais moment en regardant le remake. Je comprends l'intérêt du remake de se dire, on a un univers et il y a des moments où faut souvent essayer de choper des nouvelles personnes pour entrer dans cet univers-là. Et c'est vrai que c'est une porte d'entrée. Plus abordable et plus accessible, ouais. Donc je comprends l'intérêt d'avoir fait un remake parce que faut aussi changer des choses quand tu fais un remake, faut pas juste faire un copier-coller. Mais quand même l'original. Hein.
Et toi, Géraldine?
Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Maxime. Je trouve pas le remake mauvais, contrairement à d'autres remakes qu'on a ici rejetés en bloc. Je pense que ça peut être pas mal pour les gens qui sont hermétiques peut-être à l'animation ou à des questions peut-être un peu trop métaphysiques comme ça d'un coup d'un seul. Mais je choisis quand même le premier parce qu'il est plutôt marquant. Je pense que le deuxième, je vais l'oublier un peu plus rapidement. J'aime beaucoup le côté esthétique. Les animations sont magnifiques, la musique est trop bien. C'est assez hypnotique et en fait, même si on comprend pas tout, parce que je suis passée à côté de vraiment plein de choses au niveau du scénario, j'aime bien le fait de nous laisser un petit peu réfléchir. Voilà, c'est un film qui fait réfléchir.
Ça fait réfléchir, hein.
Ah, ça fait réfléchir, hein. Et si vous souhaitez voir à quoi ressemblera notre monde dans 5-6 ans, puisque c'est censé être en 2029, donc regardez Ghost in the Shell, la version qui vous sera le mieux. Donc on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Déjà Vu, et merci à toutes et tous.
Ciao.
Ciao.
Sayonara.
Sayonara.
Itadakimasu.
Steven Spielberg qui avait acquis les droits du manga d'origine.
Ça doit être à ce moment-là où il a fait Ready Player One.
Je ne sais pas. Faut vérifier.
On va demander à notre fact-checker de faire ça.
Ouais. Fact-checker ?
Oui. Tu es là ?
Je suis là.
Tu te noies, fact-checker ?
Fact-checker ?
Il est sous l'eau là.
Est-ce que Steven Spielberg a fait Ready Player One dans cette année-là ?
Je check. Problème de bande passante.
2018.
C'était. Oh là. Ah, c'est bon, on est déconnecté. Hey,
mais tu es humain, tu es comme nous en fait.
Fact checker, c'est déconnecté du réseau, excusez-moi.
Tu n'es pas qu'un fact checker, Maxime, on sait qu'il y a une âme en toi.
Ok. The distant future. It is the distant future, the year 2000.
We are robots.
The world is very different ever since the robotic uprising of the mid-90s. There is no more unhappiness.
Affirmative.
We no longer say yes. Instead, we say affirmative.
Yes, affirmative.
Unless it's a more colloquial situation with a few robo-friends. There is only one kind of dance, the robot.
And the robo-boogie.
Oh yes, two kinds of dances.
Finally, robotic beings rule the world. The humans are dead. The humans are dead. We use poisonous gases.
and we poison their asses. The humans are dead.
She's right, they are dead.
The humans are dead.
They look like they're dead.
It had to be done.
I'll just confirm that they're dead.
So that we could have fun.
Affirmative. I poked one, it was dead.